besoin de faire un effort pour créer ces liens qui nous unissent. Et je l'ai senti tout particulièrement ce soir dans le chant des cantiques. Je me disais en chantant, si c'est vrai que nous chantons, comme nous devrions être heureux. D'abord, d'avoir un objet à aimer. Précieux Jésus, je t'aime, remplis-moi de ton amour. Et alors que je méditais intérieurement dans mon cœur et qu'on a chanté l'autre cantique, mort avec Christ, d'une mort volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre. Je me dis, mais est-ce que c'est vrai que ce que nous exprimons là dans ces cantiques, que nous vivons déjà au ciel alors que nous sommes encore sur la terre en but à toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'épreuves? Est-ce que nous sommes marqués par nos épreuves ou bien marqués par cette vie du ciel? Nous vivons déjà dans le ciel. Nous connaissons quelque chose que le monde ne peut pas connaître, la paix de Dieu. Et nous devons être riches de cette paix. Nous devons être riches de cette patience de Dieu. Dieu est patient. Nous devons être riches de cette joie du ciel. Car dans le ciel, chaque jour, il y a de la joie pour des pécheurs qui se repentent. Et si nous étions davantage en communion avec le ciel, au lieu de voir seulement nos misères et nos manquements, nous nous réjouirions de savoir que devant les anges de Dieu, il y a de la joie parce que des pécheurs se sont repentis. Peut-être que nous ne les connaissons pas, mais nous savons que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans le monde entier et qu'il fait son travail, même si nous n'en connaissons pas tous les résultats. Et j'étais frappé que notre frère, M. Dévier, soulignait cette parole de l'Apocalypse au chapitre 3e, n'est-ce pas? Ce reproche qui est fait à l'Église d'Éphèse, qui a des œuvres, qui a bien des choses que le Seigneur aime à souligner, mais toutefois, après avoir souligné ce qu'il voit de bien dans cette Église, il nous dit la vérité, parce que nous aimer, c'est nous dire la vérité. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Et j'étais amené personnellement à méditer sur ce que c'était qu'au fond ce premier amour. Habituellement, on nous fait remarquer que quand on se convertit, n'est-ce pas, et qu'on apprend l'amour que Dieu a eu pour nous, eh bien, on est rempli de cet amour. On se souvient de cette joie de la conversion, de ce moment où on a pu dire « Il m'a pardonné, je le crois » et on chante « Je suis sauvé, Dieu m'a fait grâce », n'est-ce pas? Et bien d'autres cantiques qui parlent de cette certitude « Je ne sais pourquoi dans sa grâce il m'a tant aimé, mais je... » Et alors on a un cœur gonflé d'amour, puis après les années passent, et puis il arrive que on n'a plus ce premier amour. Il semble que la flamme a baissé, et on entend même dire que c'est au fond tout à fait naturel, n'est-ce pas, que après le grand foyer, bien la flamme a diminué. On nous dit aussi que quand on voit, je viens de Suisse où il y a beaucoup de chutes d'eau, eh bien, une chute d'eau fait pas mal de bruit. Alors c'est la chute à la conversion, hein, on est assez bruyant, on se fait entendre. Et puis, après, quand la chute rejoint le fleuve, il y a moins de bruit, n'est-ce pas? C'est pas toujours le bruit qui manifeste l'amour que l'on a pour le Seigneur. Alors on nous dit, bien oui, autrefois vous étiez une chute assez bruyante, et puis maintenant, eh bien, c'est plus calme, mais c'est un fleuve. Puis on essaye de se tranquilliser comme cela. Alors, moi, je ne sais pas ce qui en est de vous, mais ce que j'ai compris pour moi-même, c'est qu'au fond, le premier amour, qu'est-ce que c'est? Bien, le premier amour, c'est l'amour de Dieu. Le premier amour n'est rien d'autre que l'amour de Dieu. Et je pense bien que vous ne m'accuserez pas d'une fausse doctrine, puisque l'Écriture nous dit que Dieu nous a aimés le premier. N'est-ce pas? Il nous a aimés le premier. Nous l'aimons, pourquoi? Parce que lui nous a aimés le premier. Et alors, au début de notre conversion, on a eu une vision claire de cet immense amour de Dieu. Alors on le ressentait puissamment, on était dans le premier amour, c'est-à-dire on était vraiment proche de Dieu, intimement unis à Dieu. Et puis, on s'est un peu habitué, de sorte que retrouver le premier amour, c'est pas essayer d'avoir davantage de flamme par nous-mêmes, mais c'est de retrouver la vision de notre Seigneur, de retrouver ce que nous rappelons chaque dimanche matin, quelque chose de qui est toujours nouveau. Il m'a aimé au point de me donner son Fils. C'est un don ineffable, c'est un don inexprimable, et c'est ainsi que je suis renouvelé dans le premier amour. Je retrouve l'amour de Dieu dans mon cœur, car l'amour de Dieu, il a été versé dans nos cœurs par quoi? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et c'est pourquoi, quand nous nous jugeons de tout ce qui peut attrister le Saint-Esprit, soit dans nos paroles, soit dans nos pensées, soit dans nos actions, eh bien, le Saint-Esprit étant libre, on peut éprouver à nouveau cet amour pour Dieu. Ce n'est pas notre amour pour lui, mais c'est son amour qui a repris toute sa valeur. Le premier amour, c'est l'amour de Dieu qui a repris toute sa valeur. On connaît le prix de la grâce. Bien sûr, nous annonçons un évangile gratuitement. Nous disons aux âmes que le salut est gratuit, mais nous n'oublions pas que s'il a été gratuit pour nous, il n'a pas été gratuit pour celui qui nous l'a acquis. Nous n'avons pas été rachetés de notre vaine manière de vivre par de l'argent ou par de l'or, hein, mais par le sang précieux du Christ, qui veut dire par la vie donnée. Il avait tout donné, il avait encore sa vie, et pour nous racheter, il a donné sa vie. Et c'est tellement merveilleux quand on a pu saisir cela. Mais en venant, je me disais, eh bien, sur quoi vas-tu leur parler? Et j'ai pensé à un témoignage qui m'a bien bouleversé et que j'ai entendu justement aux côtés de mon père. J'étais depuis 2 ans dans le ministère, qu'en revenant d'une prison où j'avais évangélisé, mon père me dit, il y a une conférence ce soir où un de tes camarades de classe va parler, et il y a le pasteur. C'était pas l'habitude de mon père d'aller écouter cela, mais je ne sais pas pourquoi, il me dit, peut-être que tu seras intéressé d'entendre ton camarade et de voir ce qui se passe dans ce milieu-là. Et nous sommes allés les deux. Et il y avait beaucoup de monde, c'était dans l'église officielle alors, qu'on appelle nationale du village, c'était un soir, c'était pas une heure de culte, et c'était pour entendre ces témoignages. Et figurez-vous qu'il y avait là une jeune femme veuve et qui avait deux petites filles et qui avait le chapeau qu'on appelait chez nous là le chapeau Alléluia. Je ne sais pas si vous dites ça ici, c'était le chapeau salutiste, parce que cette femme qui, depuis son veuvage, cherchait vraiment le Seigneur, trouvait que dans son église, elle n'était pas assez nourrie. Alors elle l'avait dit carrément au pasteur. Elle a dit, on n'a pas de nourriture ici. Ces cultes formalistes ne me donnent rien. Elle avait 28 ans. Elle était jeune veuve. Et le pasteur lui a dit, oh, une âme comme la vôtre, allez à l'armée du salut. Et vous restez dans notre église, mais vous allez à l'armée du salut, alors vous aurez des occasions de faire du travail pour Dieu. Et voilà, sans s'occuper davantage de ses besoins, il l'avait orientée vers l'armée du salut où elle avait tellement travaillé qu'elle était tombée malade. Mais elle se trouvait là, assise, je la vois encore, j'étais très étonné. C'était la femme du médecin de notre contrée qui était mort 3 ans plus tôt, et qui l'avait laissée veuve avec 2 petites filles. Et le pasteur a dit quelques mots, c'était à côté de la vérité. Mon camarade a dit un peu mieux, mais c'était toujours du moi qui sortait. Et puis voilà, il n'y avait pas, personne n'avait ouvert la Bible. Le pasteur dit, peut-être que notre sœur aurait quelque chose à nous dire au sujet de la mort de son mari. Et on a vu, et c'est toujours dans les temps de faiblesse et quand les hommes ne sont pas capables d'être à leur place, que Dieu suscite, par exception, un témoignage de femme. Je vois cette femme qui se lève, parce que je vous raconte quelque chose que j'ai vécu, et vous allez savoir pourquoi, et qui dit, bien, moi je n'ai rien à vous dire, mais je voudrais vous exprimer simplement ce qui s'est passé à l'hôpital le dernier jour que j'ai vécu avec mon mari, et ça a été pour moi le plus beau jour de ma vie conjugale, qui a duré 3 ans, 3 ans pendant lesquels elle avouait n'avoir pas été très heureuse, quoique elle avait épousé le fils d'un pasteur, mais qui avait 20 ans plus qu'elle. Elle avait 20 ans à son mariage, lui, il en avait 40, fils de pasteur, mais d'un pasteur qui niait l'inspiration des Écritures. Et j'ai quelques-uns de ses livres dans lesquels il a mis, par exemple, à côté du chapitre 4 des Éphésiens, il a écrit du chapitre 5 des Éphésiens au sujet de la femme, faux. N'est-ce pas? Comme si Paul s'était complètement trompé, hein. Femmes, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes, faux, tout cela, c'était biffé, il avait fait une croix, tout pasteur qu'il était. Tandis que cette jeune femme, venant d'un milieu athée, son père était juif, mais sa mère était athée, elle avait épousé ce fils de pasteur, ce médecin qui avait 20 ans de plus qu'elle, pour se sortir de son milieu, car elle n'en pouvait plus de l'incroyance de sa mère, et puis, alors, du manque de connaissances, évidemment, de son père, qui était un grand homme, il y a même des rues dans certaines villes de France qui portent son nom. Mais elle cherchait la vérité. Et figurez-vous que son mari, qui était major, médecin, est tombé malade pendant son service militaire et il a été hospitalisé à Lausanne, en Suisse. Et à l'article de la mort, cet homme de 43 ans qu'il avait, dit à sa femme, « Prends ta Bible et lis-moi quelque chose, fils de pasteur. » Et elle, qui ne connaissait pas vraiment encore les Écritures, qui cherchait la vérité, elle a ouvert sa Bible, et c'est ce verset que je vais vous laisser. Et vous verrez pourquoi. Parce que c'est toujours la parole. Elle y a lu le chapitre 1er de Jean.
de l'évangile de Jean, vous le connaissez par cœur, j'espère, ce prologue de saint Jean. Et quand elle est arrivée à ce verset, il est venu, ou la parole est venue chez les siens, c'était les Juifs, mais les siens ne l'ont point reçu, que ce soit la parole ou le Seigneur, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Et vous êtes là. Est-ce que nous avons tous reçu cette parole? Est-ce que nous avons tous reçu le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel en cette soirée du 22 juillet 1992? À tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Son mari lui dit, arrête, relis ce passage. Elle relit, et dans l'église où elle était, où ce que j'entendais, elle a relu le passage. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair et du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et son mari lui dit, relis encore une fois. Et la troisième fois, quand elle a lu, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Elle dit, à ce moment-là, le visage de mon mari s'est éclairé, puis il a dit, mais est-ce que tu comprends? Je n'ai rien à faire. C'est fait. Il a tout fait. Et il dit, chérie, si je dois vivre, nous aurons une autre vie et je pratiquerai ma médecine autrement dans nos villages. Mais le Seigneur a trouvé bon la nuit suivante de le repentre. Et en entendant, et puis elle n'a rien dit, elle se ratise en disant, c'est là que j'ai vu pour la première fois un peu de lumière sur mon chemin. Alors moi, cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Et comme j'avais écrit, à l'âge de 18 ans, sans l'avoir voulu, dans la souffrance, alors que j'étais à l'article de la mort, un message de Dieu pour les veuves, puisqu'il était dit dans l'épître de Jacques que le service religieux pur et sans tache devant Dieu consistait à visiter les veuves dans leur affliction et à se garder pur du monde, hein, chapitre 2 de Jacques. Il s'était trouvé une jeune veuve qui était venue me visiter, elle était croyante, j'avais souvent été chez ses parents, qui étaient de braves enfants de Dieu, d'une assemblée que j'aimais beaucoup, et elle me dit, Gaston, toi qui connais bien ta Bible, parce qu'est-ce qu'elle était ma connaissance, je lisais ma Bible dans ces années de préparation, dans la souffrance où je voyais mourir des gens tout autour de moi pendant des mois où j'étais dans la souffrance, eh bien, elle me dit, est-ce que tu connais des passages qui font des promesses aux veuves? Alors, c'était un bon exercice. Je n'avais pas la Bible Thomson ou la Bible Scofield avec des références, je n'avais pas même de concordance, mais je me suis mis à noter tout ce que je trouvais depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse au sujet des veuves. Quand on n'a pas de sommeil la nuit et que l'on souffre passablement d'insomnie, bien voilà, ma pensée était captivée et je faisais ma chaîne au sujet des veuves. Et j'ai été bouleversé de trouver environ une centaine de passages qui nous parlent des soins que Dieu veut donner à la veuve. Et en particulier,
Ce service religieux pur et sans tache devant Dieu consiste à visiter les veuves dans leur affliction et à se conserver pur du monde. Alors, je lui ai écrit sur une feuille comme ça les passages, les références. Et quand, après ma guérison miraculeuse, le Seigneur m'a employé à visiter des assemblées ayant reçu une lettre de recommandation de mes frères qui me connaissaient dès mon enfance, un jour, dans une petite ville du Jura bernois, il y avait 15 veuves à la sortie de cette assemblée, qui était composée de 400 personnes, qui me disent: mais Gaston, vous avez écrit quelque chose pour les veuves? Je dis: oh, non, j'ai juste écrit quelques textes qui rappellent ça. Mais dit: mais nous voudrions avoir tout cela. Nous avons ici 16 veuves et rien n'a été écrit pour elles. Alors figurez-vous, je rentre à la maison et puis j'en parle à mes parents et à mon instituteur. C'était une occasion de lui parler du Seigneur. Je lui ai dit: vous savez, vous m'avez dit que je pourrais écrire, eh bien, je voudrais écrire quelque chose aux veuves, un message de Dieu aux veuves. Puis il me dit: mais c'est intéressant. Puis alors j'ai écrit, je lui ai montré cela, et j'étais dans les assemblées dites exclusives, et à ce moment-là, en France, il y avait un imprimeur qui s'appelait Monsieur Bezin, qui imprimait un journal qui s'appelle Le Salut de Dieu, qui existe encore maintenant, et qui était édité à Paris, mais on l'imprimait dans cette imprimerie-là. Et j'ai envoyé mon texte, le message de Dieu aux veuves, en demandant à ce frère de bien vouloir l'imprimer et que je viendrais les visiter. Et je suis arrivé, c'était en 1938, pour voir à quoi en était cette brochure. Elle était publiée, mais ce brave ami se figurait que j'avais une grande barbe, les cheveux comme je les ai maintenant. Et il ne pensait pas que c'était un jeune homme de 21 ans qu'il avait derrière la porte. Et je me souviendrai toujours de la tête qu'il faisait et quand il m'a dit, il ne voulait pas croire que c'était moi qui avais écrit cela, mais enfin, j'en étais l'auteur. Alors, on m'a invité pour prêcher dans cette assemblée exclusive, dite d'Arbis, de ce temps-là. Et voilà que la semaine passée, figurez-vous que je reçois cette lettre. Cher frère en Christ, c'est le 22-6-92. Mais ça a passé par Nice, parce qu'on croyait que j'habitais encore Nice. Ayant lu et donné plusieurs de vos écrits, entre autres « Être chrétien », j'aimerais reconstituer mon stock pour continuer sa distribution. Je vous serai reconnaissant de m'envoyer 6 exemplaires d'Être chrétien. Vous joindrez évidemment la facture appropriée à tous vos frais. J'avais eu le plaisir de vous voir et de vous entendre à l'assemblée de Chalon-sur-Saône en 1938. Bien, vous savez, ça m'a fait un choc au cœur de recevoir cette lettre cette semaine passée d'un homme qui parle de 1938 et de ce local où j'avais prêché. Puis je vous ai retrouvé en 48 dans l'assemblée des frères à Lyon vers 48-50 et je me souviens que vous aviez prêché sur Jean 10. Moi je m'en souviens pas. Mais vous voyez que la parole que nous donnons, elle est reçue et tôt ou tard, elle peut produire des fruits. Eh bien, pour clore, puisque l'heure est déjà arrivée, je reviens à ce texte que cette jeune femme avait lu. Ayant cette brochure aux veuves, n'ayant pas dormi de toute la nuit, j'ai dit à mes parents: si j'allais demain chez la femme du docteur pour lui donner ce message, parce que c'est lamentable de voir qu'on laisse les âmes dans les ténèbres, dans la nuit. Et vous savez, j'y suis allé comme ça, le cœur battant, c'était pas drôle pour moi. J'y suis arrivé, et puis elle m'a reçu, et puis je lui ai dit, j'ai entendu le témoignage au sujet de la mort du docteur Moulin, il s'appelait Moulin, et ça m'a impressionné, et je bénis Dieu de ce qu'il ait amené votre mari à la foi. Mais me permettriez-vous de vous lire un chapitre? Je lui ai lu le chapitre 8, et je vous invite à le lire, du Deutéronome, et je me souviendrai toujours de ce moment-là, quand j'ai lu le chapitre 8 du Deutéronome. Elle me dit, et puis je l'ai expliqué, elle me dit, mais monsieur Racine, on trouve ça dans l'Ancien Testament? Parce qu'elle n'avait pas la connaissance, n'est-ce pas, des richesses de l'Ancien Testament. On lit le Nouveau Testament, mais on ignore presque tout de l'Ancien Testament, de ces bénédictions que l'on peut avoir si l'on suit la parole. Puis, on s'est agenouillé, on a prié. Elle a vraiment confessé le Seigneur. Et puis, je me souviens toujours de cette parole, qu'elle bénissait Dieu de ce que nos âmes s'étaient rencontrées. Quelques mois après, je me trouvais dans le ministère à Lézin en Suisse, pensant rester célibataire, endurci jusqu'à la fin de mes jours, puisque j'avais été si malade, quand en sortant d'un sanatoria, d'un sanatorium, j'ai entendu la voix de Dieu qui me disait, fonde un foyer pour tuberculeux à Lézin. Il y avait 3000 tuberculeux, c'était la grande maladie de ce temps-là, sur la montagne. Moi, fonder un foyer pour tuberculeux à Lézin, mais oui, pour quelle raison? Parce que les malades, entre les cures qu'ils faisaient, n'avaient que le bistrot ou le cinéma pour aller un moment passer de divertissement. Et Dieu me demandait de fonder, et j'avais vu qu'il y a un besoin d'annoncer l'évangile au milieu de ces malades. Alors il faudrait que, et le Seigneur me dit, fonde un foyer pour tuberculeux à Lézin. Il faudrait que j'aie un foyer et que je les reçoive. Mais venir à Lézin, je ne peux pas venir tout seul. Et j'avais été invité à dîner ce jour-là par un grand commerçant de cette ville qui était un frère en Jésus-Christ. Et quand j'arrive, il me dit, qu'est-ce que vous avez? Votre visage rayonne. Et c'est là que je lui ai dit, je l'ai rencontré. Je n'ai pas dit qui. Et lui de me dire, parce qu'il était sur la même longueur d'onde, et qu'est-ce qu'il vous a dit? Fonde un foyer pour tuberculeux à Lézin. Et je vois les larmes qui giclent de ses yeux, il me prend dans ses bras, il me serre sur son cœur, et il me dit, c'est 20 années d'exaucement de prière. Moi, je suis au soir de la vie. J'ai eu des grands magasins, j'ai gagné ma vie avec la maladie, mais j'ai toujours prié que Dieu prépare un homme qui vienne un jour ici prêcher à tous ces malades et qu'il soit préparé pour cela. Puis il me regarde en me disant, ton foyer, j'en prends la charge. Vous savez, une demi-heure après l'appel, sans que j'aie demandé quoi que ce soit, on me dit, je prends la charge de ton foyer. Mais il me dit, mais pour cela, il faudrait que tu aies une femme. Parce que tu ne peux pas avoir un foyer sans être marié. Et puis, il faudrait qu'elle soit un peu plus âgée que toi, parce que toi, tu es trop mûre pour avoir une jeune fille de ton âge. Est-ce que tu connais quelqu'un? Alors, j'ai pensé à cette jeune veuve, dont les petites étaient orphelines, et ça motivait encore davantage mon mariage, et c'est ainsi que cette jeune femme est devenue mon épouse, que j'ai eu le jour de mon mariage deux enfants qui n'étaient pas de mon sang mais que j'ai pu élever, et les deux sont au service du Seigneur. Une a épousé Tadford, dont
certains connaissent, en tout cas le père Tatford, et qui était un serviteur de Dieu remarquable, et qui travaille maintenant à Aix-en-Provence, son fils, et ma belle, et ma fille, parce que ce sont vraiment mes filles. Et j'ai compris une chose, mes amis, c'est que quand on fait la volonté de Dieu, c'est pas les liens de la chair qui comptent, c'est les liens de l'esprit. Mais, 4 mois plus tard, j'étais à Lévin. J'ai marié, on est monté à Lévin. 4 mois plus tard, cet homme qui avait pris l'engagement de financer cet appartement meurt subitement. Le dernier soir, nous avons chanté ensemble ce beau cantique. Il aimait jouer du violon. Oh Dieu, nos temps sont dans ta main. C'est un destin digne d'envie et sans souci du lendemain. Je me souviendrai toujours de cela. On part, on se quitte, et à 5h du matin, sa femme me téléphone, Gaston, venez vite. Paul est parti vers le Seigneur. C'était pas une catastrophe, mais il n'avait pas fait de testament, et comme il était associé à des frères, à ses frères, l'héritage revenait aux héritiers de sang, et la femme n'avait plus que le quart en héritage. Alors j'ai tout de suite compris ce que le Seigneur voulait. Il m'a lancé, mais il ne veut pas que j'aie une assurance charnelle. Il me l'enlève. Paul est mort, mais le Dieu de Paul n'est pas mort. Et pendant 7 ans, j'ai pu continuer mon ministère à Lézun auprès de tous ces malades. Dieu y pourvoyant jour après jour, selon sa grâce et son amour. Et alors que bien des chrétiens m'avaient traité de criminelle, d'amener 2 petites filles dans un lieu où il y avait la tuberculose. Après 7 ans, quand nous avons quitté les uns, parce que les on soignait la tuberculose autrement après, n'est-ce pas, mon ministère était achevé là, puisqu'il y avait ce que j'avais à cœur de vous dire. Si vous abandonnez votre vie au Seigneur, parce qu'on l'a dit, n'est-ce pas, ce n'est plus notre vie, c'est la sienne. Si vous acceptez que ce soit lui qui règne dans votre vie, eh bien vous verrez jour après jour des miracles se produire. Nous avons un Dieu qui parle encore et qui sait satisfaire à tous nos besoins sans qu'on ait besoin d'écrire des lettres pour faire connaître nos besoins. Il les connaît et nous pouvons toujours envoyer un message pour rendre grâce. Eh bien, c'est ce que je souhaite, que ce soir, les uns et les autres, vous puissiez vous rappeler de ce texte qui était le moyen de la conversion de ma première femme, comme aussi de son mari, à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le droit d'être enfant de qui ? Enfant de Dieu, qui a tout en main. Dieu notre Père, nous te louons de tout notre cœur, parce que si nous sommes nés créatures de Dieu, nous pouvons devenir tes enfants par une nouvelle naissance. Et nous voulons te demander que s'il y a même une seule âme qui n'ait pas connu cette nouvelle naissance, que tu la fasses naître aujourd'hui. Dans ce jour qui suit, le jour dont le monde a tant parlé, le 21 juillet, un homme a marché sur la lune. Ô Seigneur Jésus, ce premier pas d'un homme sur la lune, que nous puissions comprendre qu'il y a mieux à faire que de marcher sur la lune, mais de marcher sur la terre comme des enfants de Dieu. Et nous voulons être semblables à notre Père Céleste, parce que c'est toi, ô Jésus, qui nous a dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Cette perfection, nous ne l'avons pas en nous, mais par toutes les épreuves que tu permets, eh bien, tu nous donnes de puiser dans ta sagesse les richesses dont nous avons besoin, de puiser dans ton amour ce qui nous est nécessaire pour satisfaire nos affections et de puiser dans ta joie les consolations dans toutes nos tristesses. Bénis chacun de nous, bénis cette assemblée, multiplie-la, rends-nous fidèles et sois encore avec ceux qui annoncent ta parole ce soir, partout, et garde-nous dans notre tour pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui reste le même, qui est venu, qui reviendra, que nous attendons. Amen.